Radio Okapi.
Le journal, Jacques-Yves Molima.
Le secrétaire d'État américain Tony Blinken est entendu en RDC. Il vient pour entre autres appuyer les efforts africains régionaux pour promouvoir la paix dans l'est de la RDC. D'après Frédéric Amani, chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'université de Lubumbashi, qui est notre invité dans ce journal, cette visite peut aider à baisser la tension entre Kinshasa et Kigali. Et puis Jean-Marc Kabound, invité pour la deuxième fois au bureau de l'Assemblée nationale. Il sera entendu à la suite du réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation qui sollicite l'obtention de l'autorisation et la levée de ses immunités. Enfin, le député national Jackson Aoussé dénonce les attaques des ADF vendredi et samedi sur l'axe Komanda Kisangani. Selon cet élu du territoire du Rumu, il est inexplicable que cette partie de l'Ituri continue à enregistrer des morts plus d'une année après l'installation de l'état de siège. Voilà tout pour le sommet. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken séjournera en RDC du 9 au 10 août. Selon un communiqué de l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo, il s'entretiendra avec des membres haut placés du gouvernement congolais et des membres de la société civile pour discuter sur la tenue d'élections libres, inclusives et justes en 2023, en promouvant les respects des droits de l'homme et en protégeant des libertés fondamentales. Il se focalisera aussi sur la lutte contre la corruption et appuiera les efforts africains régionaux pour promouvoir la paix dans l'est de la République démocratique du Congo et l'ensemble de la région des Grands Lacs. Selon Frédéric Amani, chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'université de Lubumbashi, cette visite peut aider à baisser la tension entre Kinshasa et Kigali en rapport avec la résurgence du M23. Il a été joint par Alain Irung.
Pour que la RDC capitalise la visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, je pense que la RDC doit être un État capacitaire. Et cette capacité d'un État va lui permettre de nouer des partenariats stratégiques avec d'autres États, à l'occurrence les États-Unis. Et dans ces partenariats, ça va aboutir à une coopération à somme multiple et non une coopération à somme nulle. Lorsque vous êtes partenaire avec quelqu'un, vous devez vous dire des vérités, quand bien même ces vérités peuvent fâché. Et c'est à ce moment-là que la RDC saura capitaliser la visite du secrétaire d'État Anthony Blinken en RDC. Certainement, je pense que la pression diplomatique de New York peut faire fléchir la volonté du Rwanda de soutenir le mouvement M23. Pourquoi ? Nul n'ignore que depuis un temps, l'influence qu'a le Rwanda dans la sous-région des Grands Lacs, c'est aussi entre autres par rapport au soutien qu'il bénéficie des grandes puissances, dont notamment les États-Unis.
Frédéric Kamani, chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'université de Lubumbashi, est notre invité dans cette édition du journal. Le bureau de l'Assemblée nationale invite pour la deuxième fois Jean-Marc Kabound à le rencontrer ce lundi 8 août à 13h, afin de l'entendre à la suite du réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation qui sollicite l'obtention de l'autorisation et la levée de ses immunités. Ce après que Jean-Marc Kabound a sollicité la surséance de la procédure engagée par l'Assemblée nationale. D'autres détails avec vous, Pierrot et la Mégie.
Dans cette lettre datée du 4 août dernier, le président de l'Assemblée nationale, Mbosonko Diapwanga Christophe, explique à Jean-Marc Kabound que la démarche du bureau, qui est une exigence de l'article 102 du règlement intérieur de la Chambre basse, privilégie la nécessité de les protéger et que pour garantir sa défense, il lui est demandé, je cite, de se faire assister de deux ou trois de nos collègues députés ou de votre conseil pour cette ultime occasion, fin de citation. Réagissant à la demande de surséance de la démarche du bureau de l'Assemblée nationale sollicitée par Jean-Marc Kabound, toujours dans la même lettre, le président Christophe Mboso indique que la phase d'instruction du dossier étant inquisitoire et secrète, le bureau de l'Assemblée nationale ne peut en aucun cas entraver le cours de la justice en vertu des dispositions pertinentes de l'article 151 de la Constitution. Et enfin, le président de la Chambre basse précise à Jean-Marc Kabound, je cite, « Si vous estimez que le fait mis à votre charge relève de vos opinions en tant que député national, il vous revient d'organiser votre défense », précise-t-il.
Tous nos efforts pour avoir une réaction du camp de Jean-Marc Kabound n'ont pas abouti. Et puis, opération zéro délinquant dans la province du Lualaba. La gouverneure intérimaire de cette province a salué cette initiative du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, des jeunes bâtisseurs de Kanyamakassese, qui permet, selon elle, aujourd'hui à sa province, de résoudre tant soit peu le phénomène de délinquance juvénile à la base de plusieurs cas d'insécurité, surtout à Kolwezi. Mais aussi de former ces jeunes à un métier qui leur permettra de se prendre en charge. Fifi Masuka l'a dit dans une conférence de presse organisée samedi à Kolwezi. Tout en reconnaissant quelques dérapages de certains éléments des services de sécurité, elle affirme suivre de près la situation pour que les instances judiciaires fassent leur travail et que les personnes impliquées répondent de leurs actes. On écoute la gouverneure intérimaire de Lualaba, Madame Fifi Masuka, dans cet extrait proposé par Alain Irung.
Pour moi, il était aussi important que ces enfants-là puissent avoir aussi une formation. Où est-ce qu'on pouvait les envoyer? Je pense que le service national n'a pas été créé aujourd'hui. Ce service national a été créé il y a une décennie. Et nous suivons tous à la télévision. Nous voyons comment il a encadré des enfants venant de Kinshasa. Ceux-là qu'on appelait Kuruna. Vous tous, vous avez vu l'agressivité de ces enfants-là. Mais quand il les a montrés à la télé, après un temps, c'était des enfants meilleurs qui faisaient de bons, qui ont cultivé, qui ont récolté, qui ont eu des salaires. On n'a pas ramassé des enfants d'une année. On n'a pas ramassé les enfants de 2 ans. Ces enfants qui étaient là, ce sont des enfants de 7, 8, 9, 10 ans. Et ces enfants sont encore là. Les parents qui ont réellement les soucis de leurs enfants sont passés pour récupérer ceux-là qui pouvaient récupérer. Ce sont ces enfants qui sont là-bas, qui sont chez Père Damien. Et les deux filles sont chez Tabitha.
Notez que la gouverneure intérimaire du Lualaba a confirmé le bilan de 3 morts parmi ces jeunes, dont 2 qui se sont battus et 1 par overdose de stupéfiants. Au Kwilu, un prêtre catholique, curé de la paroisse Saint-Joseph Mukasa dans la ville de Kikwit, a été grièvement blessé après avoir reçu un coup de balle tiré par des bandits à mains armées qui ont attaqué dans la nuit de samedi à hier dimanche le couvent Mukasa. Ces bandits, selon Léonard Moutangou, ont emporté aussi quelques biens et les enquêtes sont en cours pour en savoir plus. Le maire de la ville de Kikwit, Léonard Moutangou, est joint par Irène Mboma.
Il y a 2 couvents de ce côté-là, il y a Murumba et Mukasa. Alors les bandits sont entrés à Mukasa où ils ont attaqué le curé et les autres prêtres. Et le curé a été attaqué à mort, ça ne sortait avec des blessures graves et il a même eu un coup de balle à l'épaule. Ils sont allés pour voler parce que la paroisse s'est préparée à célébrer les prémices d'un de ces prêtres qui a été ordonné dernièrement. C'est pourquoi sûrement que les bandits se sont dit qu'on trouvera des bonnes choses là-bas, de l'argent et autres. Ils se sont attaqué à eux la nuit. Et les prêtres, au moment où je vous parle, les prêtres qui étaient internés dans un centre médical à Kikwit, a été transformé dans un avion médicalisé à Kinshasa, l'abbé Godefroy Pembele, déjà transféré à Kinshasa. Les autres n'ont pas eu de blessures graves, hein. Ce sont des blessures légères. Ils ont emporté certaines choses, nous vous donnerons les précisions un peu après. Les enquêtes sont en cours.
En effet, l'abbé Pembele, transféré de Kikwit à Kinshasa, n'a pas survécu. Dans un communiqué publié hier dimanche, et dans la soirée, l'évêque de Kikwit a annoncé son décès. En Ituri, le député national Jackson Aoussé dénonce les attaques des ZADF perpétrées vendredi et samedi dans les villages de Kandoi et Bandiboli sur la route nationale numéro 4, axe Komanda Kisangani, causant la mort de plus de 20 personnes, plusieurs autres disparus et des dizaines de maisons incendiées. Selon cet élu du territoire d'Irumu, il est inexplicable que cette partie de l'Ituri continue à enregistrer des morts plus d'une année après l'installation de l'état de siège. Il interpelle le gouvernement surtout de prendre ses responsabilités. L'armée, de son côté, rassure que des dispositions sont prises pour sécuriser la population. Marcel Kizabiamongu.
La première attaque de ZADF a eu lieu à Kandoi dans la nuit du vendredi où environ 10 civils fuyaient l'incursion. Des rebelles ont été tués et plusieurs autres sont portés disparus. Samedi, les mêmes rebelles ont attaqué les villages voisins de Bandiboli. Ici, une dizaine de personnes ont été tuées par ces malfrats, indique des rescapés. Face à ces tableaux sombres, le député national Jackson Aoussé s'est dit très consterné. Il appelle les autorités à mettre en place un mécanisme de riposte à ces attaques pour épargner les vies humaines.
Nous interpellons aux autorités nationales de sécuriser la population. L'ennemi est identifié. Tout simplement, un mécanisme de la protection, de riposte, d'anticipation doit être mis à contribution.
L'armée appelle la population à lui faire confiance car selon elle, les forces loyalistes sont à la poursuite de l'ennemi qui opérerait avec la complicité de certains civils dans la région. Lilitina Gilgongo, son porte-parole à Ditouri.
Les forces armées sont sur place. Il y a un déploiement considérable pour poursuivre ces terroristes et le mettre hors d'état de nuire.
Ce dimanche matin, les trafics sur la route nationale numéro 4, Komanda Mambasa, étaient toujours suspendus. Bounia, Martial, Kizabia Mungu, Radio Okapi.
Réagissant alors au dernier massacre intervenu en Ituri, la coordination provinciale de la société civile Force Vive s'est dit très consternée par ces morts de civils enregistrés alors qu'une accalmie relative s'observait déjà dans les territoires de Djougou et d'Irumu. La communication a été faite à la presse ce dimanche en rapport avec les tueries récentes de 22 personnes par des assaillants du groupe armé Zahir à Dala et de plus de 10 autres personnes dans le sillage de l'incursion des ADF à Kandoï et Bandiboli. La société civile demande aux autorités de l'état de siège de tout faire pour stopper ces massacres en Ituri. Son coordonnateur des données, Lossa, est au micro de Martial Kizabiamungu.
La société civile de l'Ituri demande aux autorités de l'état de siège de s'appliquer pour arrêter tous ces gens-là qui ont massacré la population civile, de tout faire pour mettre fin avec l'existence des ADF Nalu dans le territoire congolais parce que ADF ce sont des rebelles ougandais, ils doivent quitter le sol congolais. Il a été dit d'ailleurs lors du sommet des chefs de l'État de Nairobi que tous les groupes armés commencent à discuter avec leur gouvernement. Ce qui nous ne comprenons pas, ADF Nalu continue à opérer sur le territoire congolais et l'Ouganda croise les bras devant cette situation. Nous demandons à ce que rapidement des actions de grande envergure soient menées contre ces groupes armés et que l'État congolais s'assume, donne le moyen nécessaire aux forces armées congolaises, les FADC, afin de mettre hors d'état de nuire tous ces bandits qui circulent avec les armes, ça et là.
Contactez le porte-parole de l'armée en Ituri qualifie les auteurs de ces massacres de lâches. Le lieutenant Gilgongo demande aux miliciens du groupe Zahir de déposer les armes et de s'inscrire dans le processus de paix comme l'ont déjà fait d'autres groupes armés à l'instar de la CODECO et de FPIC. Radio Capi lance à partir de ce lundi une série de reportages sur les provinces du Bas et Haut-Touélé. Commençons par la province du Haut-Touélé. Plus précisément, dans la zone de santé de Niangara, où la population éprouve des sérieux problèmes à se faire soigner dans les formations médicales de la place. En cause, le manque d'argent. Ce qui pousse une grande partie de cette population à recourir à l'automédication ou aux tradis praticiens. C'est ce qu'affirme la coordination de la nouvelle société civile du territoire de Niangara. Les autorités sanitaires reconnaissent que certains patients attendent d'être à un stade très avancé de leur maladie pour se présenter à l'hôpital. Mais le médecin-chef de zone de santé de Niangara dit aussi que, faute d'équipement et de médicaments appropriés, il éprouve des difficultés à prendre en charge certaines maladies. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
La coordination de la nouvelle société civile de Niangara explique cette situation d'abord par la pauvreté très prononcée des habitants de cette entité, mais aussi par le manque de confiance observé chez les malades, car le seul hôpital de la place fonctionne difficilement faute de moyens humains et matériels. Bienvenue à Kumbano et le responsable de cette structure citoyenne.
Moi-même, je passe. Si je trouve les gens en train de traiter leurs affaires à la maison. Et lorsque ça devient encore pire, c'est assez mal qui tente d'aller à l'hôpital. Et lorsqu'ils arrivent à l'hôpital, c'est trop tard, c'est le décès.
Dans la chefferie de Maziga, certains malades se rendent carrément chez les tradis praticiens, d'autres recourent à des plantes médicinales. Le médecin chef de zone de santé de Niangara avoue que sa juridiction n'a pas tous les équipements nécessaires pour la prise en charge des malades, ce qui est de nature à pousser les patients à s'automédiquer ou à se tourner vers les tradis praticiens. Le docteur Didier Amondjandrou.
On n'arrive pas à trouver solution au problème des patients. On l'oriente, c'est la difficulté qu'on a. Parfois, ça se solde mal. Il risque de rentrer à la maison, aller voir les tradis patients pour dire que son problème n'a pas trouvé solution à l'hôpital. Vous voyez, parfois, il y a des conséquences néfastes.
Cette autorité sanitaire lance un appel au gouvernement et à ses partenaires pour venir en aide à cette entité où les malades sont parfois obligés de parcourir plus de 100 km pour atteindre des structures sanitaires mieux équipées. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Capi.
Dans la province du Maniema, l'université de Kindu est évaluée à 30% en ce qui concerne l'assurance qualité. Cette auto-évaluation a été faite par la cellule Assurance Qualité au Maniema. Portée sur la gestion de l'université et ses facultés, quatre domaines ont fait l'objet de cette évaluation, dont les domaines de la formation, de la recherche, de la gouvernance et de la vie à l'université. Florence Kizalunga, reportage.
Effectuée entre les mois de juin et décembre 2021, cette auto-évaluation au niveau de l'enseignement supérieur permet de se rendre compte des faiblesses, des forces et des opportunités, mais aussi des menaces pour porter des améliorations, fait savoir Setecho Manyembo, coordonnateur de la cellule Assurance Qualité au Maniema.
L'objectif, c'est que tous les autres établissements puissent faire cette évaluation. La recommandation vient même du ministre. Vous savez, nous avons déjà une agence nationale d'assurance qualité. Chaque établissement doit faire cette évaluation pour tester ses faiblesses, ses forces et pour améliorer, parce que nous voulons avoir des finalistes de qualité.
Les 30% évalués ne découragent pas les recteurs, plutôt les poussent à faire mieux. Professeur Patrick Mubambo.
Les 30% qui ont été évalués, cela signifie que nous devons nous améliorer. Cela signifie que nous ne devons pas dormir sur nos lauriers. Et nous sommes contents de ce pourcentage, parce que ça va nous pousser davantage, nous motiver davantage pour faire mieux que les 30%.
Notons que d'autres institutions d'enseignement supérieur et universitaire sont appelés à se soumettre au même exercice. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Après 5 mois de négociations encadrées par le Qatar, c'est ce lundi que doit être signé l'accord de paix entre les autorités et les groupes politico-militaires au Tchad. Le processus a été long. Le chef de la junte, Mahamat Idriss Déby, est venu en personne vendredi pour participer aux ultimes discussions. 52 mouvements sont présents à Doha et au final, deux groupes se sont créés, ceux qui souhaitent signer cet accord et ceux qui le rejettent.
L'invité.
Comme annoncé, notre invité est Frédéric Amani, chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'université de Lubumbashi. Il s'exprime sur l'arrivée demain mardi ici à Kinshasa du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Que doit faire la RDC pour tirer profit de cette visite? Cette visite pourrait-elle contribuer à faire baisser la tension dans la sous-région entre Kinshasa et Kigali après la résurgence du M23? Frédéric Amani s'entretient avec Alain Irung. Suivez.
Frédéric Amani, bonjour. La visite d'Anthony Blinken intervient en Afrique après celle du patron de la diplomatie russe Sergueï Lavrov et du président français Emmanuel Macron. Les États-Unis craindraient-ils de perdre la main sur le continent africain?
D'abord, il faut préciser que de plus en plus, le continent africain est devenu un enjeu stratégique majeur dans la mondialisation de par ses potentialités. Mais aussi, on note que le continent africain devient de plus en plus un champ d'influence entre les puissances traditionnelles, je fais allusion aux États-Unis, à la France, à la Grande-Bretagne, mais aussi un champ d'influence des puissances émergentes. Je fais allusion ici à la Chine, à la Russie, à l'Inde, à la Turquie. Et on doit admettre une chose que depuis un temps, l'Occident est en perte d'influence en Afrique et cette visite du secrétaire d'État américain entre en ligne de compte de raffermir les relations entre les continents africains et les États-Unis. Surtout que cette visite du secrétaire d'État américain a été précédée par la visite du président français Emmanuel Macron dernièrement et aussi la visite du ministre des Affaires étrangères russe Lavrov. Et ça démontre l'enjeu que représente aujourd'hui l'Afrique dans la mondialisation. La visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken en Afrique entre en ligne de compte de préparer le moral des Africains. Lorsque je parle des Africains, j'ai fait allusion ici aux chefs d'État africains qui doivent représenter les continents dans ce sommet stratégique qui est organisé dans le prochain mois entre les États-Unis et l'Afrique.
Qu'est-ce que la RDC peut attendre de cette visite dans ce contexte tendu avec le Rwanda à la suite de la résurgence du M23 et surtout après ce rapport des experts de l'ONU pas encore publié mais qui reconnaît le soutien de Kigali au M23?
Il faut préciser une chose, c'est que les États sur la scène internationale ne se font pas des cadeaux. Mais tout dépend du rapport de force que cet État déploie sur la scène internationale pour tirer profit des interdépendances qui se nouent entre acteurs. Mais on doit préciser une chose, au regard du rapport des experts des Nations Unies indexant le Rwanda comme pays soutenant les mouvements de rébellion, les États-Unis peuvent jouer un grand rôle, d'abord comme grande puissance et surtout comme membre permanent du Conseil de sécurité. réglée, à ce moment-là, les États-Unis peuvent faire un plaidoyer en faveur de la RDC pour que les États cités, à l'occurrence le Rwanda, soient sanctionnés et d'autres pays qui soutiennent le mouvement des rébellions soient sanctionnés et que la paix et la sécurité règnent dans cette partie. Mais dois-je rappeler ici que les États n'ont pas ni amis ni ennemis sur la scène internationale, mais ils ont des intérêts à défendre. Et les États-Unis, en acceptant de soutenir la RDC au détriment du Rwanda ou d'un autre pays, c'est par rapport aux intérêts que les États-Unis tirent en étant en coopération avec la RDC.
Qu'est-ce que la RDC peut faire selon vous pour capitaliser cette visite d'Anthony Blinken?
Pour que la RDC capitalise la visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, je pense que la RDC doit être un État capacitaire. Et cette capacité d'un État va lui permettre de nouer des partenariats stratégiques avec d'autres États, à l'occurrence les États-Unis. Et dans ces partenariats, ça va aboutir à une coopération à somme multiple et non une coopération à somme nulle. Lorsque vous êtes partenaire avec quelqu'un, vous devez vous dire des vérités, quand bien même ces vérités peuvent fâcher. Et c'est à ce moment-là que la RDC saura capitaliser la visite du secrétaire d'État Anthony Blinken en RDC.
Après la RDC, Anthony Blinken se rendra au Rwanda. Pensez-vous que la pression diplomatique de New York pourrait faire fléchir Kigali dans son soutien au M23?
Certainement. Je pense que la pression diplomatique de New York peut faire fléchir la volonté du Rwanda de soutenir le mouvement M23. Pourquoi? Nul n'ignore que depuis un temps, l'influence qu'a le Rwanda dans la sous-région des Grands Lacs, c'est aussi entre autres par rapport au soutien qu'il bénéficie des grandes puissances, dont notamment les États-Unis. Mais ce qui est important à souligner ici, qu'il va de l'intérêt du Rwanda de soutenir Kinshasa pour que ensemble les deux pays puissent mettre en place des programmes d'intégration pour aider les deux États à regarder dans la même direction pour la paix et la sécurité.
Frédéric Amani, merci.
Voilà, complètement terminée cette édition du journal mise en onde par Jean-Claude Siala. Merci à toute l'équipe rédactionnelle sous la coordination de Pierrot et la Mégie et la supervision d'Alain Irung. Merci de nous avoir suivis.